Nous sommes mardi 20 novembre 2024, vous êtes sous la couette et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah!
Bonsoir à tous, bonsoir Renard.
Bonsoir.
Oh oui, alors là, c'est avec sa plus belle voix. Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Et bonsoir Zergy. Non, Zergy finalement. Non.
Ah,
voilà, ça y est. Il est revenu. Il est revenu, il est parmi nous, tout va bien. Eh bien, le programme de ce soir, nous allons parler du dernier gros jeu de Nintendo cette année, je pense, pour 2024, parce que je crois pas qu'il y ait autre chose dans le calendrier. Il y a rien qui m'a marqué.
Ouais.
Je crois pas. Il n'y a pas de Pokémon.
Peut-être,
pas de...
non. Ah si, il y a la ressortie de Xenoblade Chronicles X.
Oui, mais c'est 2025, ça.
Mois de mars, ouais.
Ah oui, merde.
Pour, je crois que pour cette année, c'est ce qui clôt le calendrier. Hein. Je pourrais me tromper, mais il me semble que c'est le cas. Voilà. Donc, nous allons parler de Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Ça tombe vachement bien parce qu'il y a un an, presque jour pour jour, nous avions une émission spéciale, une rétrospective Mario & Luigi avec l'inénarrable Renard, et on a rebalayé tout le truc, donc je vous invite à aller le réécouter et voir, c'est vachement raccord, et on n'avait pas prévu, hein, le jeu n'était pas annoncé ni rien, donc c'est vraiment ce qu'on appelle dans le jargon un gros coup de moule. Voilà. Mais nous allons commencer tout de suite par notre traditionnel tour de table de l'actualité, et je vais inviter Monsieur Zergy à démarrer avec le sujet que tu veux, tu en as deux, tu démarres par ce que tu veux, ça me... voilà, les deux me vont très bien.
Non, l'autre, on va le zapper parce que c'était juste pour se moquer de Julien Chaise. Mais sinon, après Mario 64 et Zelda 64, il y a la décompilation de Mario Kart 64 qui a commencé. Donc on va encore avoir une terre à chier de portages sur des consoles plus ou moins douteuses, dirons-nous.
Il y a des portages PSP déjà, je trouve ça lamentable.
Sérieux ? Putain.
Mario 64, maintenant que ça a été décompilé, tu peux le faire tourner sur littéralement n'importe quoi, hein. Il y a des gens qui ne se privent pas. Alors est-ce que ça va être une vraie décompilation façon Super Mario 64, on essaye vraiment de tout retrouver, ou est-ce que ça va être façon Zelda 64 où on sait que c'est un peu plus approximatif?
Là aucune idée, hein. Là, l'avenir nous le dira.
Bon, on re-regardera ça avec intérêt. Je vais passer la main à Monsieur Renard qui a une petite nouvelle de Sony. Qui ne concerne pas la PS5 Pro ou Concorde, les deux grandes réussites de Sony cette année.
Ouais.
Attends, ils ont sorti une exclue sur la PS5 là ? Non, c'est ça ?
Non. Non, j'aurais préféré, mais non. Non, il y a des rumeurs comme quoi Sony chercherait à acheter Kadokawa, qui est du coup une entreprise, une grosse entreprise qui gère plusieurs trucs, publications, etc. Et notamment. Il s'agit de la maison mère de Acquire, qui était le studio qui a fait Mario & Luigi, l'épopée fraternelle, ainsi que la maison mère de From Software. Voilà.
Acquire, c'était pas chez Square Enix ?
Acquire, non, c'est Kadokawa. Alors après, il y a peut-être une joint venture aussi, je serais pas très étonné que Sony veuille racheter tout, enfin, Kadokawa, donc, pour récupérer les parts qu'avait la société dans From Software, dans Acquire, et ainsi de suite. Donc c'est possible qu'il y ait aussi... Enfin, tu sais, c'est le venture capital, quoi. Il n'y a pas de... Il y a peu de sociétés qui appartiennent à 100% à une société mère.
Ouais, mais ça reste quand même un truc qui ferait que Sony s'assurerait et s'assirait bien une position de quasi-monopolité au Japon. Monopolité, ça existe ça ?
Je pense pas. Non,
non monopole. Mais
bon, bref, on a compris ce que je viens de dire.
Alors attends, vas-y, excuse-moi, Zergy.
Personne n'achète la PS5 au Japon.
Bah en même temps, personne n'achète la PS5 nulle part, non ?
Mais elle est sortie ?
Ah, la blague.
C'est 4 ans et on s'en lasse toujours pas. Hein. Voilà, apparemment,
déjà.
Ils ont zappé, ils ont abandonné la PS5, ils ont sorti directement la PS5 Pro.
Ah, c'est ça.
Okay. C'est plus simple.
Oui, d'accord, c'est la nouvelle narrative. Ils ont sorti la PS5 Pro en premier.
Bah, moi, ça me paraît quand même être la meilleure solution quand tu réfléchis.
Ouais, et il n'y a toujours pas une série de jeux intéressants dessus. Ah si, il y a un clone de Mario, à savoir Astro Bot.
Ouais, qui est bien parti pour être jeu de l'année, hein, je rappelle. Donc, c'est pour vous dire le niveau auquel on en est rendu cette année.
Ah putain, il y a ça aussi. Oh là là.
Ouais, malheureusement, il va falloir qu'on s'y intéresse, mais ce sera pas avant une semaine ou deux, donc tout va bien. Ne vous inquiétez pas. On va gérer. Bref, je vais terminer ce tour de table de l'actualité par une petite nouvelle de nos amis de chez Good Old Games, GOG. Alors, GOG, ce ne sont pas des toilettes, hein, je précise pour Méduse. C'est important, qui ont lancé un grand programme de préservation du jeu vidéo. Donc il y a une centaine de titres qui sont, je cite, préservés pour toujours. C'est-à-dire que je sais pas exactement ce qu'ils vont faire, en fait c'est pas très clair comme programme. Donc l'initiative est bonne et j'allais la saluer jusqu'à ce que je lise les petites lignes et que je me dise mais vous faites quoi en fait?
Probablement qu'ils vont se débrouiller pour que les licences qui sont du coup aux jeux vidéo soit une licence à perpétuité au lieu d'une licence temporaire comme il y avait avant, ce qui causait justement le fait qu'on retire ces jeux.
Alors moi ce que j'avais compris, c'est qu'ils s'engageaient en fait à se débrouiller pour que ça puisse tourner sur les machines modernes maintenant et à l'avenir en gros. C'est-à-dire c'est une espèce de contrat tacite comme quoi ces jeux-là, cette espèce de panthéon, même si il n'y a pas que des grands jeux, hein, il y a vraiment un peu de tout, ils s'engagent à les maintenir ad vitam. Parce qu'ils continuent de tourner dans 10, 20, 30 ans.
Ça reste très bien. Surtout qu'il y a certains jeux, tu ne les trouves plus que sur Good Old Games.
Bah oui, il y a des jeux qui sont... Alors, il y a quelques jeux qui sont totalement perdus. Ça existe encore. Hein, vraiment des jeux perdus au sens... Le détenteur de la licence, on ne sait plus qui c'est... C'est en gros des jeux qui sont perdus d'un point de vue propriété intellectuelle, donc on ne peut plus les vendre sur les magasins parce que plus personne ne sait à qui c'est. C'est à ça que sert Abandonware. Hein. On salue nos amis d'Abandonware France qui font un travail eux aussi de préservation en essayant justement de conserver ces trucs dont plus personne ne sait à qui ils appartiennent. Mais tout le reste, généralement, c'est disponible sur Good Old Games, à très peu d'exceptions près. Ils ont quand même un back catalogue assez impressionnant. Alors faut aimer les jeux PC, hein. C'est partie des petits défauts du truc. Mais voilà. Et souvent dans des versions originales très bien préservées et qui fonctionnent un peu sorties de la boîte, quoi. Ce qui est quand même
à peu près. À peu près, parce que moi je me suis récupéré Discord sur leur site récemment. Faut faire un peu du ménage.
Faut faire un peu papa maman pour que ça marche.
Ouais. C'est une question de parce que sinon il est extrêmement petit le pauvre vieux.
Ouais. Je pense que là justement c'est peut-être aussi pour éviter ça, mais en tout cas voilà, je pense que la rédaction du dojo dans son intégralité salue le fait que Good Old Games s'engage là-dedans. Qu'est-ce que ça voudra dire exactement en termes de licence et puis véritablement de maintien finalement d'un jeu comme ça, j'en sais rien, très honnêtement. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, l'initiative est à saluer. On aimerait bien que certains très gros éditeurs, je pense à Electronic Arts, je pense à Activision, je pense à plein d'autres très très gros éditeurs, fassent un petit peu plus attention comme ça à leur héritage et à leur catalogue, et essaient de les préserver le plus possible ou le mieux possible. Parce que finalement c'est aussi une manne financière quand on se débrouille un peu, donc quand même dommage de pas en profiter. Wink wink Activision, wink wink ouais. Electronic Arts, il y a peut-être du pognon à faire.
Je te fais wink wink Square Enix, si tu fais ça, comment tu fais pour sortir des remakes
tous les FIFA?
Ah putain. Pourquoi pas.
Moi, je pensais quel est l'intérêt, très honnêtement, à partir de la version GameCube, c'est que du copier-coller.
Alors, je tiens quand même à ce qu'on essaie de préserver un jeu très important du catalogue d'Electronic Arts, qui est Madden NFL 06. Pour une raison très simple, c'est le Madden qui est sorti sur le plus de plateformes de l'histoire. C'est-à-dire qu'il est sorti sur DS, sur Game Boy Advance, sur GameCube, sur Xbox 360, sur PS3, sur Wii, sur sur Xbox tout court, sur PS2. C'est n'importe quoi. Il y a genre 15 ou 20 portages différents de ce jeu. Donc rien que pour ça, tu vois, rien que pour cette performance.
Après, ça casse pas de pattes à un Street Fighter 2. Hein.
Oui, non, mais d'accord. Mais Street Fighter 2, c'est bon, il est préservé.
Oui.
Mais pas de problème.
Ça.
Bref. Ben écoutez, on va tout de suite entamer une première pause musicale. Ce tour d'actualité est extrêmement court. Mais c'est normal, en ce moment, l'actualité, c'est un peu compliqué. Bref, nous allons nous écouter un petit morceau de la bande originale de Mario et Luigi Brothership, donc l'épopée fraternelle en français, Brothership en anglais. Il s'agit du thème des batailles, le thème principal qu'on va entendre très souvent dans le jeu. C'est composé par Hideki Sakamoto, ça dure un petit peu moins de 2 minutes et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour.
Tour.
Ah, c'est tour ASMR, attends, tour. Voilà, je me permets pour ces gens qui se posent la question, Mecton, il est et dans le turfu.
Ouais.
Et il est actuellement 6h12 du matin, donc dans le turfu, exactement. On se lève très tôt.
Exactement.
Bref.
Nous et je la donc... place en direct. Si on vous dit que la fin du monde est pour aujourd'hui, je suis demain, tout va bien.
Voilà. Nous allons donc décortiquer ce nouveau Mario et Luigi, une saga dont je rappelle encore une fois qu'on avait fait une émission spéciale l'année dernière, vraiment, l'article date du 25 novembre, c'est pour vous dire à quel point on est vraiment à 360 jours près. Il se trouve que l'année dernière on avait justement appris que le développeur Alpha Dream avait fermé ses portes, qui était le développeur historique de la série Mario et Luigi.
Seulement l'année dernière, alors, ok.
Il me semble que c'était l'année dernière qu'on avait appris qu'il fermait. C'est d'ailleurs ce qui avait déclenché le fait de vouloir faire une rétrospective, c'est de se dire, merde, le studio est mort, donc ce serait quand même bien qu'on parle de ça. Et il se trouve qu'on avait Renard qui était, comment dire, tout à fait frétillant à l'idée de parler de Mario et Luigi, qui est une de ses séries préférées.
Absolument, surtout l'épisode Voyage au centre de Bowser.
Oui, c'est ce qu'on avait bien compris hein, dans la dernière émission. Encore une fois, je vous y renvoie. Voilà, donc Alpha Dream, c'est fini. Ça a été repris par un autre développeur qui s'appelle donc Acquire et qui a notamment bossé sur les Octopath Traveler.
Ouais.
Donc, quand même, une petite expérience du RPG, on peut le dire, je pense.
Ça fait un petit... Oh oui, c'est très sympa, Octopath. Ouais. Surtout le 2. Putain, le 2, jouez-y, voilà. Il est très très bien.
J'avais cru comprendre que quand on avait fait justement l'émission sur Octopath Traveler, que le 1 c'était pas foufou. Enfin, qu'il y avait deux, trois trucs un peu dommages, mais que le 2 était très bien.
Des bonnes idées, voilà, des bonnes idées mais pas abouties, et le 2 est vraiment plus abouti, et là la BO défonce.
On claire un premier jet, et ensuite ils ont fait la version définitive.
Voilà. Voilà. Et là ils se retrouvent avec Mario Luigi, donc un truc quand même assez radicalement différent. Même si ils ont 4, 5, 6 épisodes duquel ils ont pu s'inspirer pour pouvoir faire la suite. Je ne sais pas s'il y a énormément de nouveautés dans ce jeu.
Il y a quelques petits changements par rapport à comment tu contrôles les frères dans l'Overworld.
C'est ça.
Oui, parce que tu utilises par exemple le bouton L pour gérer Luigi.
Oui, tu as le fait que... On en reparlera effectivement de la progression dans l'Overworld, mais t'as le fait aussi que t'es plus obligé de faire sauter Luigi, c'est-à-dire qu'il suit automatiquement Mario. Et quand tu sautes, Luigi finit par sauter. Enfin, tu vois, il te colle au cul en permanence, mais t'es pas obligé de le faire sauter et de le faire avancer.
Ce qui ouais, était
le cas sur les
choix.
Versions GBA.
C'est un choix.
C'est un choix. Il y a des gens que ça a apparemment surpris ou déçu. Moi, je trouve que c'est plutôt une amélioration de qualité de vie de se dire que bon, finalement, il est en mode. Suiveur en permanence.
Oui, ça passe quand même, puis il est pas con, enfin son pathfinding est très bien foutu.
Tout à fait, et même ses actions autonomes sont plutôt bien foutues aussi.
Ouais.
Bref, allez, on va faire un petit tour de tout ça, on va commencer par le système de combat qui, lui, n'a pas beaucoup, beaucoup changé. Hein.
Là, par contre... Mais il y a deux, trois petites modifications qui changent un peu le sel du jeu.
Donc, on a toujours des attaques classiques, genre le marteau, le saut, qu'on réalise avec les deux frères, c'est-à-dire que bah, quand on sélectionne Mario pour faire un saut, on commence par sauter avec A sur la tête de l'ennemi, puis on saute sur Luigi avec B, puis on ressaute sur l'ennemi avec A, et puis bah, Luigi c'est l'inverse, ça va faire B, A, B, et Mario c'est A, B, A.
Ce qui est justement une modification par rapport aux autres opus, où là, c'était uniquement un seul frère qui faisait une seule chose.
Voilà. C'est-à-dire que les attaques qui, à l'origine, étaient des attaques duo, je crois, c'est ça, ou des attaques frères, où les deux étaient utilisées, là, maintenant, toutes les attaques, en gros, peuvent se dérouler en duo.
Les premières attaques frères, c'était les attaques duo, puis ils ont appelé attaque frère ou attaque spéciale. D'accord.
Ça rajoute un petit côté jeu de rythme dans les combats, je trouve ça plutôt cool.
Ouais, d'ailleurs les combats font énormément penser à du jeu de rythme parce que t'as beaucoup de... Les ennemis font énormément de contre-temps, notamment sur les esquives.
Oui.
Alors en général quand tu es en position de défense, donc quand l'ennemi attaque, les ennemis vont souvent marquer une espèce de contre-temps, c'est-à-dire que t'as un ennemi, il s'endort à moitié, puis il se réveille et il te fonce dessus. Et donc t'as vraiment un timing un peu particulier par ennemi, sinon tu t'en prends plein la gueule. Donc t'as effectivement ce petit côté très rythmé de chaque action du combat qui fait que t'es vraiment tout le temps obligé d'être concentré, quoi.
Ce qui est toujours très intéressant, mais ça c'est un propre de la série, c'est quand tu tombes sur un nouvel ennemi, il va falloir apprendre son pattern pour caler ta défense parfaite au bon moment, quoi.
Oui. Parce que tu peux soit effectivement ne pas prendre de dégâts, ce qui est l'idéal, ne pas prendre de dégâts, ce qui est bien, soit l'idéal c'est de pouvoir contre-attaquer, c'est-à-dire le sauter au bon moment pour faire des dégâts à l'ennemi et ainsi de suite.
Ou alors lui faire perdre son chapeau.
Alors là je sais pas s'il y a des chapeaux.
Ah, il y en
J'en
a.
J'en ai pas encore vu.
Il y en a. Je peux vous dire qu'il y en a.
Il y a des mecs avec des chapeaux.
Il y a des mecs avec des chapeaux, enfin des espèces de casques que vous devez d'abord leur sauter dessus pour pouvoir ensuite leur sauter dessus pour faire des dégâts. Et bah, à un moment donné, il y a un ennemi spécial où justement tu as une espèce de horde avec ces gars à chapeau. Et il faut que tu les aies tous en un coup, sinon ils rappellent des renforts. Et c'est très chiant à combattre, très honnêtement. Donc il y a parfois des petits problèmes de design ici et là. Voilà, donc ça montre qu'ils tâtonnent quand même un petit peu malgré les 5 épisodes précédents dont ils pouvaient s'inspirer.
Bah après là c'est un nouveau développeur hein, donc il fallait qu'il rajoute sa petite sauce sans trop perturber les habitudes, c'est pas forcément très simple non plus.
Oui, après c'était un ennemi spécial, c'est une espèce de quête secondaire, voilà.
On a aussi les attaques classiques marteau-saut qui maintenant peuvent être réalisées à deux, on a les attaques frères qui sont le grand classique de Mario Luigi, donc ils consomment l'équivalent de la magie qui sont les points frères.
Ah frère, putain, moi j'ai toujours cru que c'était fleur.
PF, ah, pour moi c'est les points frères, c'est pas les points fleurs, mais
miel. Donc c'est point frère dans Mario et Luigi et c'est point fleur dans Paper Mario.
Enfin, ah ah, et les mecs c'est malin, c'est le même F.
Ouais.
Alors, ça marche bien dans la BO, dans la VO aussi, hein, tu vois, c'est les Flower Point et les Brother Point.
Oui.
Je crois que c'est comme ça.
Et les attaques frères dans Brothership, du coup, sont plutôt ils font revenir plein d'attaques qu'il y avait dans les précédents. Notamment les Barrel Cloner, qui sont mon attaque préférée de Voyage au Centre de Bowser, évidemment.
Il y a plein d'autres trucs qui reviennent aussi, parce qu'en fait, ils ont aussi recyclé tout un tas d'animations. Je pense à un des premiers qu'on débloque, je pense que Mecton, tu as débloqué aussi, c'est la tortue.
Oui.
La carapace.
Non, c'est mais la carapace verte, elle est là dans tous les opus. La carapace verte, elle est là dans tous les
opus. Tout à fait. Mais là, tu as vraiment donc les... Alors, quand tu le joues avec Mario, il fait la fameuse technique de la Tour Eiffel. Hein,
pour ce Strikers, ouais.
Donc, ils font des passes avec son frangin, avec la carapace. Et à un moment, il y a Mario, il met la carapace en l'air et il la frappe. Et c'est exactement la même animation que dans Super Mario Strikers.
Oui, justement, ils font revenir ces vieilles attaques frères, mais ils rajoutent toujours une petite animation à la fin assez explosive. Par exemple, les barils cloneurs, à l'origine, c'était juste les barils. Tu les envoies sur les adversaires et puis c'est fin de l'attaque. Là, pour le coup, c'est une fois que tu as fait tous les barils, en fait, les frères se mettent dans un plus gros baril qui va ensuite tirer et ça va faire une espèce de grosse roue qui va faire un burn-out avant de venir se cracher sur les ennemis pour une dernière attaque. Il y a tout plein de trucs comme ça.
Il y a plein, de toute façon, il y a tout un tas de trucs, et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a aussi des effets. C'est-à-dire que certaines attaques ou certains objets, c'est-à-dire certains marteaux, certaines bottes,
Cale des buffs sur les ennemis. Je sais pas si c'est nouveau ou pas, ça.
Il me semble que c'est nouveau. Enfin, je l'avais pas vu avant. Alors après, il y avait peut-être des trucs comme ça qui existaient aussi avant. Alors, Renard, est-ce que tu peux nous confirmer ou nous infirmer éventuellement?
Bah, avant, si tu voulais faire un debuff, soit tu utilisais des équipements, soit tu utilisais le système de badge, parce qu'il y a toujours un système de badge par épisode. Là, il n'y a pas un système de badge, c'est plus une espèce de système de prise, qui est d'ailleurs complètement pété. Hein. Ah oui, il y avait... pour donner un exemple d'effet... Dans Dream Team Bros, il y avait un marteau où tu pouvais faire apparaître un boulet, par exemple.
Ouais, là c'est plus des effets type, il y a un marteau par exemple, en particulier, qui affaiblit l'ennemi, qui baisse sa défense.
Ouais. Oui, tu avais des équipements comme ça.
Des bugs qui ralentissent.
T'as des bugs qui ralentissent, des choses comme ça. T'as certaines attaques qui vont avoir cet effet en permanence, et puis t'en as d'autres qui ont une chance d'avoir cet effet.
Oui, donc... oui, c'est pas nouveau, mais je crois qu'il n'y en avait pas autant avant.
Voilà, du coup là t'es très encouragé à partir de, on va dire, du deuxième monde du jeu. On expliquera un petit peu comment fonctionne la nouvelle exploration, c'est assez original. Mais ouais, à partir du deuxième monde, t'es fortement encouragé face aux ennemis à essayer justement de combiner les effets, donc de pas juste faire ton attaque la plus puissante à chaque fois et tout le temps la même, du coup, ce qui est bon. Alors même si t'as le jeu de rythme qui te maintient un peu éveillé, c'est quand même pas très intéressant. T'es encouragé à essayer de combiner les effets en fonction des ennemis. Donc à avoir, Mecton parlait de pattern tout à l'heure, c'est à apprendre comment un nouvel ennemi attaque. Et tu peux aussi apprendre à attaquer un nouvel ennemi en te disant, ok, bah tel ennemi va être sensible à, je sais pas, flamme, défense, je sais pas quoi, donc t'as intérêt à faire un enchaînement de tel type d'attaque pour que ça fonctionne. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt réussi, ça marche pas trop mal. Ça met beaucoup de temps à se mettre en place.
C'est... Oui, ça, j'en reparlerai après quand tu... Quand on évoquera l'ouverture vers la deuxième partie, mais...
C'est vrai que ça met un peu de temps à se mettre en place, mais voilà. Donc c'est... Le système de combat, ça marche toujours aussi bien. Je trouve que c'est plutôt malin, plutôt intéressant à utiliser. C'est malheureusement assez répétitif.
C'est ça, c'est accessible, mais répétitif, quoi.
Voilà, c'est-à-dire que tu te rends compte quand t'es en fin de monde et que t'as vu à peu près tous les ennemis et que t'as vu à peu près tous les patterns. Bon...
Tournant, et tu vois, je le place maintenant, le petit défaut que je verrais au jeu, c'est cette espèce de micro-coupure que tu as à la fin de chaque combat. Quand tu te lances dans un combat qui est gagné d'avance, ça casse un peu les noix, quoi.
Bah, t'as un petit temps de chargement qui est un peu relou, quoi, de toute façon.
Oui, les chargements, j'ai entendu dire qu'il y en avait beaucoup, et du coup, au bout d'un moment, même s'ils sont courts ou ils sont longs, bah, ça te tape sur le système.
Bah, ça casse un petit peu le rythme, c'est dommage. Surtout pour les combats, tu vois, tu rentres dans un combat, donc t'as l'écran qui se fige, t'as un écran de chargement qui va relativement vite, c'est une seconde, oui, oui, et demie, deux secondes. Mais une fois que t'as battu l'ennemi, alors déjà, tu peux pas zapper les animations pendant les combats. Donc ça veut dire que si c'est un ennemi, ouais, que t'as déjà combattu une dizaine de fois, bon bah, les enchaînements, tu les connais, le truc, tu le connais.
Après, ça va, elles sont plutôt rapides, c'est pas non plus un combat de Pokémon où ça dure, oui, des ans.
Non, c'est plutôt rapide, mais tu vois, même moi qui ai une tolérance assez faible à ce genre de choses-là, je le reconnais, même avec des animations que je trouve rigolotes et tout ça...
Quand tu les as vues, tu les as vues, quoi.
Ouais, voilà. Une fois que tu les as vues, tu les as vues, et c'est un peu... bon.
Ouais.
Surtout quand tu connais la fin, tu vois, une fois que t'as donné le dernier coup de botte à l'intérieur de la carapace, bon, l'animation de Mario, tu l'as déjà vue trois fois, alors elle dure deux secondes, hein, c'est sûr que c'est pas grand-chose, mais... Et tirer sur la longueur, ça commence à faire beaucoup.
Ouais, il y a un petit problème de rythme.
Voilà. On y reviendra peut-être au petit problème de rythme. Parce que.
Ouais, au rythme particulier.
Ah, il y a 2-3 trucs particuliers. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est sûr que ça surprend un petit peu. Alors, dites, on tourne autour du pot depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle façon d'explorer l'Overworld, puisque Mario et Luigi, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Finalement, il y a quelques donjons. Là, les donjons, on y reviendra, il y en a relativement peu. Finalement, en tout cas jusqu'à présent de ce qu'on a débloqué, moi je dois être à peu près un tiers du jeu. J'ai commencé le deuxième monde, on va dire. Je sais pas où t'en étais exactement, Mecton. Ouais, ok. Donc on doit être à peu près au même niveau. Donc à moins d'une très grosse surprise, on a vu à peu près comment ça marchait. Hein.
Oui, et puis après voilà, je pense que le truc ça va être d'enrichir le jeu avec des nouvelles attaques.
Vous êtes à combien d'heures de jeu?
Moi j'en suis à un petit peu moins de 10.
Ok, alors, de ce que j'ai compris, le jeu, au final, il fait à peu près 50 heures.
Huch ! D'accord, voilà. Donc là, je peux le placer tout de suite. Je pense que c'est étirer la sauce pour pas grand-chose. Mais...
C'était le retour que j'ai vu. Et je suis tenté de dire que c'est le cas.
Je sais pas trop. J'ai l'impression que... bon, on y reviendra. On va essayer de faire dans l'ordre.
Nous y reviendrons.
Et nous y reviendrons. Il y a donc une nouvelle façon d'explorer le monde, finalement. Et au tout début du jeu, on se retrouve sur une grande île à moteur, enfin une grande île à voile, une grande île à arbre, enfin une grande île à ampoule. Enfin, c'est compliqué. En gros, on est sur une île qui bouge. Contrairement aux autres îles qui sont grosso modo à la dérive, nous, on n'est pas trop à la dérive. Et l'idée du jeu, c'est qu'il faut raccorder de petites îles. Et chaque petite île est une sorte de petit énigme, de petit niveau, de micro-donjon. Ça ressemble
de
un peu...
De mini-donjon.
Voilà. Mini-donjon, je trouve que c'est un bon terme. Ça ressemble un peu aux petits morceaux d'Overworld qu'on avait dans le Mario et Luigi de la GBA, par exemple, où t'arrives à la montagne bidule, bah, faut te démerder pour atteindre tel niveau, puis tel niveau, puis tel niveau, puis en fait, c'est, entre guillemets, relativement découpé.
Oui, mais ça restait quand même connecté. Là, en l'occurrence, si tu veux revenir à un endroit, bah, y a pas à chercher 20 milliards de fois, tu utilises... Le TP rapide pour aller au hub principal, et ensuite tu te TP pour aller au hub secondaire.
Alors tu peux aller directement sur une île particulière, t'es pas obligé de repasser par le hub central apparemment.
Oui, alors, c'est un truc qui se débloque rapidement. Ça.
Oui, ça se débloque, bon, on te le file quasiment dès le début du jeu, parce qu'effectivement sinon ce serait un peu...
Je t'encourage à revenir sur les petites îles que t'as déjà miné, ne serait-ce que pour des quêtes secondaires ou pour des collectibles à la con. Ton jeu ne connaît pas encore l'utilité. Je pense que tu vois desquelles je parle, Mortal, les petites bébêtes qui brillent, où t'as régulièrement les persos qui te disent on sait pas à quoi ça sert, mais fais-nous confiance, ramasse-les, tu verras plus tard.
Ouais, on te file des bébêtes, tu te démerdes avec. Bah, c'est un peu ça, mais voilà. Donc on a toutes ces petites îles qui ressemblent effectivement à des mini-donjons avec des mini-énigmes. Ça ressemble beaucoup avec tout un tas de petits mini-jeux très malins, comme on a d'habitude dans Mario Luigi. C'est genre faire boire de l'eau à Luigi pour qu'il soit plus lourd pour aller sur un truc, des bascules.
C'est très très guidé, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais t'arrives sur une île, la caméra te montre exactement où est le bouton qu'il faut appuyer... Puis t'as un perso qui te dit « Oh, il y a un bouton là-bas, ce serait bien qu'on arrive à marcher jusque là-bas pour appuyer dessus. » C'est bon, j'ai des yeux aussi, quoi.
Bah, sur le début, sur le tout premier monde, c'est vrai. Sur le deuxième, t'es un petit peu plus lâché. Mais ça reste assez dirigiste. Enfin, tu vois, mais le truc, c'est que la structure même des îles, finalement, fait que, même si t'as un embranchement avec deux chemins, le premier chemin, il est barré, bah tu vas sur le deuxième, quoi.
Bah, tu vas le deuxième, voilà.
Oui. Pas beaucoup.
Bon, c'est guidé, pour les enfants qui découvriraient le truc, pourquoi pas.
Oui, puis à la limite, c'est pas forcément... ça veut pas dire que c'est mauvais non plus, hein, puisque souvent, t'as... en fait, quand tu t'écartes un petit peu de ce chemin, c'est là où tu vas trouver les petits collectibles, les bonus, quelques items, quelques équipements supplémentaires, finalement. J'allais dire un peu comme dans un Kirby.
Qui facilite bien les choses.
Voilà, c'est pas finir l'aventure qui est compliqué, c'est finir l'aventure en ayant tout. La question, c'est est-ce que tu as la motivation pour aller faire tout. Donc oui, c'est un petit peu particulier, je disais donc, t'as plein de petites îles que tu raccordes, t'as un gros bateau, donc c'est pas vraiment un bateau, c'est une île flottante.
En forme de bateau.
Miam miam.
En forme de bateau, ouais, non, c'est compliqué. Hein. Franchement, on va essayer d'expliciter un peu la partie histoire après, mais croyez-moi, c'est pas simple. Donc c'est toutes ces petites îles sont réparties sur une mer, en fait, c'est-à-dire qu'un niveau, enfin un monde, c'est grosso modo une mer, donc t'as la mer turbulente qui doit être la deuxième, la première c'est la mer de tranquillité, je crois, un truc comme ça. Mer tranquille.
Clin d'œil à Xenoblade, je ne pense pas.
Je suis pas sûr. Est-ce que les univers de Mario Luigi et Xenoblade sont connectés?
Sont connectés.
C'est pas possible.
Le doute est permis.
On espère en tout cas. Bref, donc tu as ces grands trucs là, et en fait l'idée un peu originale du jeu, c'est que le navisme, donc la grande île navire sur laquelle tu es et qui en fait sert de hub central au jeu, est navigue sur des courants qui sont des trucs prédéterminés
et en permanence, ouais.
En permanence et en temps réel.
Ouais. Alors ça va vous faire peur au début. Parce que que ce putain de truc au début du jeu est relativement lent. Il y a une facilité de jeu qui se débloque au bout de quelques heures, et quand elle arrive, on se dit « Ok, merci, ils y avaient pensé depuis le départ. »
Ouais, en fait, au départ, ça fait effectivement un peu peur, mais en réalité, tu te rends compte assez vite que si tu demandes au bateau, en gros, si tu demandes à naviguer d'un courant à un autre, le bateau va prendre le plus court chemin pour y aller, mais t'as...
Voilà. Oui, oui.
Il est lancé, en gros, en pilote
automatique.
Pourquoi
je te dis que ça fait peur, c'est parce que je fais partie des Mongols qui passaient la première île. Le scénario dit « Ok, il faut aller là-bas », et je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai loupé l'île en question, il a fallu du coup que j'attende que le bateau fasse le tour complet pour que je puisse à nouveau accéder à l'île.
Je sais pas comment t'as fait ton compte.
c'était long. Enfin, c'était long. Ouais. C'est 5 minutes, quoi. Mais
ça paraît long, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre au début d'avoir ce truc en temps réel, surtout que tu l'as en permanence sous le nez, en fait, quand t'es en exploration, en haut à gauche de la carte, tu vois... ce qu'ils appellent le portulan.
Où en est le bateau.
De carte, ouais. Où en est le bateau, sur quel courant il est, vers quel courant il va. Et donc un courant, c'est vraiment une espèce de boucle dans lequel le bateau est coincé, va tourner en rond, jusqu'à ce que tu lui dises d'aller dans une autre boucle. À ce moment-là, il prend le plus court chemin pour aller dans une autre boucle. Mais tout ça se fait en temps réel.
Ouais.
Alors en temps réel, ça a un avantage aussi, c'est que ça veut dire que si tu te dis « Ah merde, faut que j'aille dans telle boucle, elle est un peu loin », ben à ce moment-là... Jean-Fulgence qui dit gna gna gna, c'est dirigiste, et puis Bento qui dit ah, je me suis perdu.
j'ai loupé le tournant, il a fallu refaire le tour.
Pour vous rassurer, je crois qu'à un moment donné, vous pouvez juste sauter au courant qu'il vous faut.
Non, il y a un turbo. Il y a un turbo qui réduit vraiment les distances.
Oui, il y a un turbo, et ensuite tu peux sauter.
Parce qu'effectivement, ça simplifie un petit peu la vie. Mais je trouve que l'idée n'est pas idiote dans le sens où... moi, il y a un moment où le jeu, il m'a clairement dit... En gros, la suite du scénar, c'est vers tel courant. Et puis, bah, tu vas vers tel courant, puis le truc te dit... Ouais, ça va bien prendre 10-15 minutes, tu devrais peut-être aller revisiter cette île-là, il y a peut-être des items à récupérer et tout. Et en fait, le temps que t'ailles te balader sur l'île, que t'ailles récupérer 3-4 secrets, que t'ailles tataner un ou deux monstres, bah, finalement, tu te re-téléportes et t'y es dans ton cercle qui va bien.
Ouais, ou tu loupes l'île. Ah, non, pardon.
Voilà, là, faut vraiment pas être doué.
Au pire, le canon doit avoir une portée.
Tu loupes l'île, mais au pire, Jacqueline, elle a récupéré ses radis, on est content.
C'est ça, hein. Ah oui, loupé l'île, mais t'as fait gagner des habitants.
Ouais. Voilà, les quêtes secondaires.
Bah du coup, l'impression que ça me donne, c'est que les quêtes secondaires ont été un peu pensées comme ça. Alors finalement, c'est pour, entre guillemets, t'occuper le temps que ton navire rejoigne le bon courant et que tu puisses suivre le fil principal. Donc de ce point de vue-là, c'est pas idiot, mais ça fait des quêtes secondaires, bah, pas très intéressantes.
Ah, c'est du FedEx, hein.
C'est ça. C'est-à-dire que finalement, ça ne te fait pas perdre de temps. C'est-à-dire, le fait d'aller faire une quête secondaire, c'est, entre guillemets, gratuit, puisque bah, tu les fais pendant les temps morts pendant lesquels le bateau est en train de circuler. Mais...
C'est un rythme particulier, quoi. C'est vraiment le « je veux aller là, ok, on y va, mais ça va prendre un peu de temps, occupe-toi en attendant. »
C'est quand même un petit peu idiot que dans un jeu vidéo que tu prends pour t'occuper, il faut que tu ailles t'occuper.
Oui, alors ça, voilà, c'est sur la toute première partie du jeu. Une fois que tu as débloqué le turbo... bah let's go quoi, les quêtes secondaires, tu fais ton petit backlog et tu te dis bah je les ferai quand j'aurai le temps. Même si tu en as certaines où t'as le petit point à côté qui te dit fais-les rapidement, elles vont bientôt disparaître si tu vas trop loin dans l'histoire.
Ouais, mais en fait est-ce qu'il y en a une seule jusqu'à présent, parce que alors ça peut rapporter des objets. Ça peut rapporter de l'équipement, ça l'équipement c'est quand même toujours bon plan, même si je crois que à peu près tout l'équipement que tu peux trouver via des quêtes tu peux l'acheter dans des magasins. J'ai pas vu d'équipement qui n'était pas accessible en magasin.
Oui, oui.
Bah, pour l'instant, oui, moi.
Après, il y a peut-être des équipements spéciaux, genre le marteau de Lothar 1er ou des trucs comme ça. Non, mais oui, voilà, bah, c'est From Software
derrière.
Est-ce
connecté, ouais.
Ah oui, est-ce que le monde de Elden Ring est connecté à celui de Mario et Luigi et donc de Xenoblade?
C'est toujours possible.
Le craft, est-ce qu'il y avait du craft dans les précédents épisodes?
C'est une excellente question, je ne crois pas.
De tête, après, il est... non.
Il est non, rudimentaire, hein, c'est...
Oui, j'ai besoin... j'ai vu qu'il y a
tant d'objets, boum, ça débloque un nouvel accessoire. Quoi.
Ou une prise.
Et une fois.
Je veux en parler à cette, de ce système de combat parce que pété quand même. Pardon.
Le truc des prises ?
Le truc des prises, tu l'as probablement pas débloqué, hein.
Est-ce qu'on parle des prises pour l'Overworld, là, celle qui te... où ça fait
non,
des petites explorations rigolotes ?
Non, je parle des prises pendant le combat. Vous les avez pas encore débloquées ?
Non.
Non.
D'accord.
Peut-être tu peux y aller, hein. D'accord, tu peux nous expliquer, on a raté un truc, vas-y. Non, encore une fois, je rappelle à tout le monde, on est à un gros tiers du jeu parce que on n'a pas les versions journalistes. On aurait pu l'avoir, en l'occurrence, celle-ci, peut-être, si on avait demandé gentiment. Mais voilà, donc 50 heures de jeu, nous on a une grosse semaine pour se le taper. Alors ok, Mecton, il a 8 heures d'avion, il a 24 heures d'avion entre deux, mais faut qu'il roupille aussi.
Oui, quand même.
Exactement.
D'accord, alors le système de prise, c'est donc l'espèce de système de badge de cet opus. Et en fait, vous allez pouvoir vous crafter des prises de courant que vous allez pouvoir mettre dans une espèce de multiprise.
J'ai eu peur, putain.
Oui, moi aussi, je me suis dit, s'ils vont nous refaire le coup des prises mâles, prises femelles, ça va mal tourner, quoi.
Non, c'est une espèce de multiprise. Je crois que tu commences avec deux ou trois et que tu peux petit à petit en avoir plus. Et en fait, selon la prise que vous allez avoir, ça va avoir un effet spécial. Mais il va durer tant de fois. Par exemple, il y a un effet où c'est garde totale. Grosso modo, tu ne prends pas de dégâts. Et ça va avoir trois charges. Et une fois que les trois charges sont faites, la prise est retirée. Du coup, tu as une prise de libre. Et tu peux mettre autre chose. Et la prise va se recharger. Et tu as aussi un nombre limité d'utilisation dans un même combat, je crois. Je ne suis pas sûr. Et c'est complètement pété. Parce que, en plus, changer de prise, c'est une action gratuite pendant ton tour. Donc tu peux juste être du genre pendant le tour de Mario, je veux avoir cette combinaison. Pendant le tour de Luigi, je vais complètement changer et je vais quand même faire des attaques derrière. Et du coup, ça te permet d'avoir plusieurs effets à la fois, en fait.
Ah putain. Alors ça peut être effectivement relativement violent, parce que le fait que ce soit une action gratuite me fait dire que c'est quand même assez bourrin, parce que la plupart des actions sont entre guillemets payantes, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu dois te soigner, bah, tu perds un tour. C'est un peu le principe d'un RPG, quoi. C'est con, hein, mais... Voilà, tu fais une attaque, tu perds un tour, tu te soignes, tu perds un tour. Les idées de génie de Luigi, dont il va falloir qu'on reparle aussi.
Fabuleux. Et tout l'habillage
est assez ouf, mais j'aimerais bien parler du truc de Luigi, justement, parce que pour l'exploration et pour les combats, il y a deux trucs. Mais bref, en gros, si c'est vraiment gratuit de changer de prise, effectivement, ça peut donner des trucs assez craqués, quoi.
Ah oui, ça donne des trucs craqués. Mais par contre, si tu retires une prise parce que tu veux changer pour une autre prise, du coup, pour un autre effet, je crois que du coup, tu mets cette prise en charge. Et tu ne peux pas l'utiliser pendant 3 tours.
Ah oui, okay. En fait, c'est plus qu'une prise, c'est une batterie rechargeable.
Semi-bien, quoi, le truc, ok.
Oui, c'est grosso modo un buff gratuit. Mais tu as un cooldown dessus.
Ouais, il va falloir qu'on explique ces histoires d'électricité et tout. Vous inquiétez pas, hein, si les trucs des prises, de l'électricité dont on a parlé, des ampoules qu'on a parlé, des raccordements, ça viendra en deuxième partie. Vous inquiétez pas, on va vous expliquer tout sur l'ADA et un petit peu l'atmosphère du jeu. J'aimerais qu'on termine par deux trucs du coup. Alors un que j'avais oublié dans le conducteur, parce que je suis un vrai connard, qui sont les idées
conducteur,
de génie de Luigi.
Si ça marche. Oui.
Les idées de génie de Luigi, parce qu'il y a quand même des trucs de ouf. Alors, les idées de génie de Luigi, on a un magnifique gif que vous pouvez voir sur, sur Mastodon, Twitter, Blue Sky, avec les idées de génie de Luigi. C'est-à-dire qu'à certains moments dans l'overworld, mais aussi dans les combats, dans certains combats, en gros les combats de boss, hein,
parce que oui, globalement.
Tu as Luigi qui se met à avoir une idée géniale. Et donc il y a une animation à chaque fois où il est là, genre il réfléchit très 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 fort. C'est genre il va sauter sur un truc. Hein. C'est à chaque fois c'est quand même assez ridicule. Donc il réfléchit très 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 fort. Et à ce moment-là, quand t'es sur l'Overworld, t'appuies sur L et il va aller tout seul faire une action particulière. Donc typiquement, moi j'avais un truc où il y avait des dalles numérotées, donc t'appuyais sur L et il allait sur la dalle, la première dalle verte qu'il voyait. Voilà.
Yes.
Ou il va donner un gros coup de marteau à un endroit. Ou il va se placer à un endroit bien précis pour que tu puisses venir, toi, aller faire une autre action à un autre endroit. Alors, donc ça remplace en gros les actions, on va dire, duo qu'il y avait avant sur l'Overworld.
Il y en a toujours. Un peu.
Oui, il y en a toujours parce que tu as toujours une petite roue de sélection. Tu peux avoir des actions duo où les frères vont faire la toupie ensemble pour voler. Et puis il y en a, je crois, 3-4 autres. Alors j'en ai débloqué que 2 pour l'instant. Donc,
Ah, je sais pas combien il y en a. Mais oui, il y en a plusieurs. Certaines m'ont l'air assez spécifiques. Mais cette idée des idées de Luigi, ça reste énormément dans l'esprit de la série.
Tout à fait. Et donc, oui, t'en as dans l'Overworld. Donc, il y a des moments où, en fait, tu te retrouves coincé et tu... Luigi a une idée de génie et il va tout d'un coup poser un bloc, et quand il va poser le bloc, waouh, ça va faire une échelle. Et là, t'es là, genre, waouh, si Luigi était pas là, comment on aurait fait, quoi. C'est vraiment... C'est drôle. C'est vraiment très... C'est souvent c'est très drôle. Super.
C'est très, très drôle.
C'est très second degré, en fait. C'est très, très con. Et dans les combats de boss, ce n'est pas une action gratuite. C'est-à-dire, de temps en temps, il se passe un truc dans le décor. Souvent, quand t'affrontes le boss, bah, c'est le vu de côté classique Mario Luigi, quoi. Les frères à gauche, le boss à droite. Et souvent, t'as un décor dans le fond où il y a un truc particulier qui va se mettre à s'allumer, se mettre à s'agiter, qui va découvrir une partie du décor. Genre, t'as un rideau qui va se déchirer, il va se passer un truc. Et t'as Luigi qui va avoir une idée de génie. À ce moment-là, quand ça va être son tour, bah, tu peux activer le bloc spécial les idées de génie de Luigi. Donc Luigi les idées de génie, hein, c'est un peu comme Jiffy. Ils auraient pu faire un super partenariat commercial, les mecs, s'ils avaient été malins.
Putain, ils sont mauvais, hein, ouais.
Ah, mais Nintendo, faut que vous nous appeliez dans ce cas-là. Et à ce moment-là, il va se passer une action particulière qui va faire beaucoup, mais alors beaucoup de dégâts au boss.
Yes.
Ou passer d'une phase du boss à l'autre, d'ailleurs. Parce qu'il y en a certaines qui sont obligatoires, d'autres qui sont optionnelles.
Ok, bah tu vois, ouais. Je pense voir laquelle tu as vu, je me suis demandé ce qui se passait si on la ratait. Alors, tu changes pas de phase, en fait.
Voilà, il y a un des boss où, en fait, ça lui fait juste plus de dégâts. Donc tu l'achèves plus vite. Donc ça, j'ai pu le tester un peu malgré moi, parce que j'ai raté l'action je sais pas combien de fois, et j'ai fini par tuer le boss quand même. Okay. Parce que j'arrivais pas à choper le timing.
Le jeu dit, ouais, c'est bon.
Je dans le moment, il a dit, c'est bon, tu l'as battu. Voilà, c'est ça. Et t'en as une deuxième, où effectivement, tu ne peux pas passer à la deuxième phase tant que tu l'as pas faite. Sachant que, une fois que t'es à la deuxième phase, si tu ne les fais pas, si tu les rates à chaque fois ou que tu décides de ne pas les faire, ça n'a plus aucune importance, tu finiras par battre le boss, juste ça va prendre très longtemps.
Ok.
Et c'est pas évident, parce qu'en plus, il regagne des points de vie, enfin, c'est un peu le bordel, ce boss, mais... Bref. Et je crois qu'il y a un autre mini-boss où effectivement tu peux te permettre de zapper. Alors je crois que la première est obligatoire, la deuxième ne l'est pas, enfin bref, mais c'est voilà, donc c'est les idées de génie de Luigi. Ça fait partie des petites nouveautés, hein, mine de rien. Ce qui m'amène au dernier point de gameplay dont je voudrais parler avant qu'on passe à la, on va dire, à l'histoire, la DA,
l'habillage.
Et l'habillage, qui sont les donjons, qui sont en fait finalement assez peu nombreux. On a dit que chaque île était une espèce de mini donjon. De temps en temps, il y a un mini boss dedans. Mais les vrais donjons, c'est-à-dire les trucs où tu dois vraiment explorer une carte avec, voilà, de fin de niveau, explorer une carte avec plusieurs niveaux, plusieurs endroits interconnectés où tu dois aller ramener une prise, un machin, une boule, une batte de baseball, véritablement ouvrir des portes, avoir des clés et tout ça. Il y en a finalement relativement peu, quoi. Enfin, tu vois, t'as
je
dû
pense
en voir
qu'il y en a 4. Bah, j'en ai vu un. Donc...
Je suppose
là
qu'il
où il est placé,
aussi.
Je pense qu'il y en a 4, peut-être plus.
Il y en a peut-être un cinquième.
Plus ouais. À la fin. À voir. À voir, à voir. Après, voilà, c'est des donjons. Contrairement aux petites îles, une fois qu'ils sont finis, ils sont finis.
Enfin, c'est ça. Alors, on peut peut-être revenir dessus, mais je vois pas trop l'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a
je vois pas l'intérêt non plus. Ouais.
Parce que je sais même pas si on peut y revenir. Est-ce qu'on peut y revenir? Oui, on peut y revenir.
Bah, à moins qu'il y ait un objet optionnel.
Ah, louper un coffre ou un truc.
Ouais, il y a quand même quelques coffres optionnels qui sont pas forcément évidents à débloquer d'ailleurs, faut un peu se creuser la tête de temps en temps. Genre, façon idée de génie de Luigi, hein, je veux dire, t'es là, genre, le coffre est en hauteur, je vais sauter. Voilà. Alors ça fait déduire à Chaminou, que le Mario est beaucoup plus con que Luigi. En fait, non, je pense que Luigi est vraiment un putain de génie de ouf. Mais vraiment.
Hein. Un génie incompris. Avec un petit running gag sympa, et là je te fais la transition vers la deuxième partie.
Oh. Et ben ça tombe bien.
C'est tellement gentil.
Une petite pause musicale pour faire transition vers la deuxième partie. Je pense qu'on a fait le tour en termes de gameplay. De toute façon, encore
oui,
une fois,
simple, accessible, plaisant.
C'est ça. Et on vous renvoie à l'émission de l'an dernier si vous voulez avoir un peu plus de détails sur les différents systèmes de jeux qui ont existé. Voilà, là, on vous a brossé un tableau général.
C'est Mario comme ça brossé. Que ça fonctionne.
On vous a Mario brossé un tableau. C'est refusé. Bref, donc toujours composé par Hideki Sakamoto, il s'agit du thème Twisty Island. Alors c'est une île un petit peu particulière de la toute première mer, donc du tout premier monde, dans lequel tout le monde c'est des chanteurs de rock qui ont de la gomina sur les cheveux, qui poussent des bananes énormes, c'est un peu n'importe quoi. Et donc c'est une musique qui ressemble énormément au rock ukulélé des années 50, c'est très 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 drôle. Ça dure un petit peu plus de 3 minutes et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour.
Tour.
Putain, c'est le... Wow, c'est le tour d'Halloween. Sauf qu'on parle de Mario Luigi, c'est joyeux quand même. Bref, dans cette deuxième partie, on va se concentrer un petit peu sur, sur l'histoire, sur l'ADA, sur toutes les animations un peu pétées. Parce que on a commencé à en dresser un petit peu le portrait, mais il y a vraiment des choses très 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 drôles. Alors, je vais vous faire un petit speech, ce qu'on appelait le petit speech à la Antix. Pour vous présenter un petit peu l'histoire du jeu. Donc, alors que Mario et Luigi sont en train de jouer à « Ah, je vais te pincer le cul » dans les jardins du château de la princesse Peach, un gros tuyau rose turgescent les aspire goulûment pour les emmener dans le monde de Connexia, une sorte de mélange entre Jardiland et le comité d'entreprise d'EDF, mais qui se déroulerait en Polynésie française. C'est-à-dire que toutes les îles étaient jadis reliées par l'harmonéon, une sorte d'électricité véhiculée par des arbres en poule et des phares, et en fait, eh bien, les phares ont été attaqués et l'harmonéon a disparu. L'Unicea, qui était donc le principal arbre à ampoule qui maintenait le monde ensemble, a disparu et c'est une technicienne de maintenance EDF, Amperia, qui a replanté une de ses graines sur une île flottante et navigante, le Navisme. Alors, isme, comme l'isthme, l'île qui n'est pas tout à fait une île, dans l'espoir de relier de nouveau toutes les îles. Et c'est donc là que France Travail a envoyé Mario et Luigi entamer leur reconversion de plombier à électricien pour relier toutes les îles, tataner tous les méchants, rebancher toutes les prises et réunir enfin le monde de Connexia. Voilà.
Yeah, yeah, yeah.
L'UNICEA, ça fait très très syndicat, effectivement. c'est la FNSEA, mais version EDF. Donc c'est un monde un peu bizarre dans lequel les plantes... Enfin, il y a des ampoules sur les îles qui véhiculent pas de l'électricité mais de l'harmonéon, qui est le truc d'harmonie. Et il y a le navisme sur lequel on est, c'est une espèce de, il a un arbre qui est une graine d'Unicea, donc il y a une ampoule au bout, il y a des branches, parce que c'est quand même un arbre, et ça fait une espèce de gigantesque voile. Donc ça fait un mélange très 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 bizarre.
C'est très joli.
Il y a un côté un peu fascinant dans le truc. On sent qu'il y a un mec qui voulait faire de l'électricité, il y a un autre qui voulait faire de la nature, et en fait ils se sont dit bon, on a qu'à faire les deux.
Exactement, ouais. Et tout ça a une influence sur la gueule des habitants de ce monde magique. Ils ont tous des tronches de prise.
Effectivement, de prise électrique. Et alors il y a des prises américaines, Donc elles ont les yeux verticaux. Il y a les prises japonaises, elles ont les yeux horizontaux. Il y a les prises australiennes, elles ont les yeux sur le côté.
Oui, oui.
T'as des prises où elles sont en L. Donc je sais plus ce que c'est, ça, comme pays à la con aussi. Ça doit être l'Indonésie ou un truc comme ça. Donc, il n'y a pas de prise européenne, hein, c'est un peu dommage. En tout cas, j'en ai pas vu.
Non, il y aurait eu un truc turgescent pour la Terre.
Ouais, ça aurait été moyen. Bah, ça aurait fait un gros pif, quoi, tu vois, ça aurait pu. Hein.
Ah oui, ça aurait pu être très drôle. Putain, j'ai vraiment l'esprit mal placé, moi.
C'est vrai, mais en vrai. Voilà.
En vrai, c'est un nez, bah voilà.
Mais ouais, ça peut.
Bah oui, c'est un gros nez.
C'est ça. Donc tous les habitants ressemblent à une espèce de prise électrique. T'as tout un tas de trucs. On parlait de la multiprise tout à l'heure, qui est effectivement le système de badge de ce truc-là, mais c'est une vraie multiprise, quoi. Ça ressemble à une multiprise américaine. Dans lequel tu vas aller effectivement brancher des prises. T'as tout un tas d'énigmes dans le jeu qui consistent à aller ramasser des prises et les poser dans à certains endroits pour ouvrir des grilles. Enfin bref, voilà, il est très inspiré d'EDF, quoi. On sait pas pourquoi.
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que.
Ça marche. Hein.
Ça fonctionne plutôt
bien. Ça marche,
bien,
ça marche. Et la petite. J'ai déjà bouffé son nom, tu vois, je m'en fous un peu, mais le. La petite Fifi là, qui te dit s'il vous plaît aidez-moi, ça lui donne un design qui est vraiment choupinou.
Bah, de manière générale, le monde il est super choupinou. Chaque île a sa petite personnalité. C'est souvent de la couleur chatoyante, à part, je pense, la Folle Jungle par exemple, qui est plus vieux, mais.
Bon, ouais, c'est chatoyant, mais il pleut quoi.
C'est ça. Mais tout est très mignon en fait, et c'est vraiment. Le jeu est magnifique. Il y a plein de super idées de design comme ça dont on ne se rend compte qu'une fois qu'on a commencé à jouer, genre effectivement l'île de ce qu'on disait, la Twisty Island, en fait toutes les petites prises électriques elles font de la musique avec de la guitare électrique et de la batterie électrique et ainsi de suite, c'est vraiment ça, et elles dansent et tout ça, et donc elles ont tous une banane, donc c'est une espèce de prise américaine mais avec une banane.
Banane à la Elvis.
Oui, je précise, oui.
Oui, ouais, très bien. Pourquoi pas, ça marche. Ça marche. Ce que j'avais comme connerie en tête. Oui, tout ça est extrêmement original, parce que la deuxième île n'est pas un désert.
Ah, oui.
Oh mon dieu.
Alors, je sais même pas si on est... J'ai pas croisé d'île qui était un désert jusqu'à présent, mais je suppose qu'il y en a. Ah, il y a une île plage. Okay.
Bah, ça... Ouais, ça compte.
Ça peut peut-être commencer.
Puis il y aura peut-être une île avec de la neige.
Ça m'étonnerait pas. Mais en tout cas,
Il y en a une. D'île avec de la neige.
Ah bah voilà.
Ce qui est vachement. Ce que je trouve vachement intéressant là-dedans, c'est que finalement, ça a permis de donner. On a dit que c'était une espèce de mini donjon, mais ils ont aussi tous une petite personnalité, mine de rien. Parce qu'ils vont avoir. Chaque île va avoir ses petites habitudes, ses petits machins, ses statues, ses arbres, sa faune, sa flore. Vraiment, chaque île a sa petite personnalité propre.
Du coup, il y a plein de petites particularités dans le petite particularité dans le design des habitants qui fait que quand tu les recroises après, t'arrives à dire ok, bah lui il vient de là.
Oui, en fonction de, ils ont une couleur différente, ils ont des habits différents, ils ont voilà. Et finalement la prise américaine standard avec deux prises verticales et puis un petit rond, bah ça fait effectivement une petite tête quoi. Donc c'est très con mais ça fonctionne bien. Il y a aussi plein d'animations un peu fofolles. Alors on a déjà parlé de l'animation des carapaces, mais en fait pendant les combats les frères ont plein d'animations. C'est vraiment assez ouf la quantité d'animations complètement pétées qu'il y a. Rien que le coup de génie de Luigi, t'en as au moins 4 ou 5 différentes des animations quand lesquelles il est en train de se creuser la tête, puis finalement il fait ouah j'ai trouvé, c'est ouf. Regardez, on peut pousser ce rocher. Putain Luigi, t'es un génie quoi.
Tu es un génie. Mais oui, ils ont l'air d'utiliser à fond l'Unreal Engine qu'ils ont décidé d'utiliser pour cet opus, pour je ne sais quelle raison, mais bon.
Pour l'éclairage.
Je pense aussi, mais c'est vraiment un aspect presque dessin animé interactif, quoi. Un peu comme on parlait de Luigi's Mansion 3, qui était très comme ça. Tu sais, avec
qui faisait très Saturday Morning Cartoon.
C'est ça, qui a des animations hyper travaillées, et tu en as plein, c'est surtout ça, t'en as des dizaines et des dizaines de tout petits détails. Mais quand Mario saute, bah, il y a son bide qui, il y a de la, il y a du, c'est quand même le premier jeu où il y a du ventre physique. Tu vois, on avait du boob physique, là on a du bide physique. C'est quand même, ça fait plaisir.
C'est vu comme détail à la con, quand la première prise d'exploration que tu débloques, imaginez Mario et Luigi qui se tiennent en position genre on danse le tango. si tu sautes à ce moment-là, ils ont un petit mouvement, genre ils sont vraiment en train de danser, quoi.
C'est ça. Et t'as plein, voilà, t'as plein de tout petits détails comme ça, que ce soit dans les animations des personnages, dans les animations des boss, dans les animations des deux frères, dans le monde en général, parce que ces petites îles qu'on explore sont très 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 vivantes. T'as souvent des petites fleurs qui éclosent, t'as des qui bougent, t'as tout un tas, t'as une myriade de détails. De ce point de vue-là, le jeu est vraiment absolument magnifique. Et tout est dans cette espèce de cel-shading. Alors, je sais pas si c'est vraiment du cel-shading, d'ailleurs,
non,
parce que...
Non, je pense juste qu'ils ont accentué des contours, je sais pas exactement comment on pourrait appeler ça, mais c'est du très très chouette, quoi, qui fait vraiment crayonné, animé. À la limite entre le 2D et le 3D, quoi. Sur un screenshot, c'est propre. C'est propre, c'est original.
C'est vrai, c'est très très propre. Hein. Franchement, là-dessus, je trouve que le jeu, il s'en sort extrêmement, extrêmement bien. Donc voilà, encore une fois, plein d'animations super originales, plein de petits clins d'œil partout.
Juste parfois, oui, c'est un peu lent.
Alors, de temps en temps, ça ramouse un peu.
Ah, je m'en ai pas gêné.
Alors, ça reste un RPG, donc en soi, le fait que le framerate soit pas très très stable, c'est pas... De toute façon, le jeu, clairement, c'est 30 FPS, hein. On va se le dire.
Oui, ça, oui, oui. Mais ça, j'en ai certainement eu... Là, pour le coup, je louais uniquement en portable, et ça m'a pas frappé, quoi.
Alors, il y a certains... En fait, c'est certains passages de certaines îles où... je sais pas si c'est du... C'est peut-être simplement du temps de chargement, t'as certains moments où tu sens que ça ramouse un petit peu, puis après ça va mieux, quoi. T'as comme une espèce de petite interruption. Genre ça va sauter 3 frames, ça se voit, beaucoup, et puis tout à coup ça s'arrête. Donc c'est un petit peu bizarre. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, le jeu est quand même absolument magnifique, on le redit, hein, mais c'est vrai que les animations sont folles, les designs sont
fous, les cutscenes sont
tarés, quoi. Maman fait tout, qui met une grosse raclée au boss, c'était quand même...
Oui, c'était magnifique.
Voilà, t'as des trucs qui sortent de nulle part comme ça, où t'es là genre, oh, ok, et là... Donc quand on bat le tout premier boss du jeu, qui est en fait un mini-boss sur une île en particulier, on a sauvé avant une habitante qui s'appelle Maman fait tout, on a sauvé son fils et sa fille.
Ah oui. Putain, big up team Trad VF.
Alors la team Trad, c'est pareil, hein. Là les mecs, ils ont été très loin. Ils ont été très, très, très loin.
Pour notre plus grand plaisir.
C'est exactement ça. Alors là, pour notre plus grand plaisir, sans problème. Hein. Les mecs, ils ont vraiment été jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient. Quoi. Il y a des jeux de mots à la con absolument partout.
Putain, mais c'est spoil, le personnage qui parle en vert, c'est génial. À chaque fois, ça me tue. Moi.
Mais t'as pas que ça, t'as plein de trucs. C'est j'ai fait ci, j'ai fait ça. Les deux filles,
ouais,
de maman.
C'est leur nom.
Et t'as plein de détails comme ça, le nom des boss aussi est assez ridicule, enfin bref, c'est tout ça. Bref, tu bats le premier boss et tout d'un coup il y a Maman Fait tout qui arrive et mais t'as pas honte d'avoir fait ça, t'es vraiment qu'un gros fumier. Elle lui décolle une claque mystique,
je crois qu'il est
le truc
en orbite,
s'envole
d'ailleurs.
Le truc c'est, voilà, satellisé littéralement.
Houston, we are in orbit and we are getting a new feed over.
C'est exactement ça, le truc se fait envoyer aux fraises. Enfin, c'est... Mais c'est en vrai assez génial de ce point de vue-là. Voilà, maintenant
mon petit plaisir, découvrir la nouvelle boîte de Luigi à chaque fois qu'on arrive sur une île.
Oui. Alors voilà, ça fait partie des détails. Comme on est sur une île et qu'on explore d'autres îles, croyez pas qu'on va y aller en canot. Ce serait
non.
Beaucoup trop simple.
Ce serait pas assez drôle.
Voilà. On a une longue vue qui est une longue vue canot. Alors, c'est un peu bizarre, hein, mais voilà, c'est cohérent dans l'univers. Hein. Tout est très bizarre.
Les champignons étaient daubés. Ouais.
C'est ça. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais c'était assez ouf. Bah déjà rien que la justification du jeu, hein, c'est vraiment ça. Ils étaient en train de se balader dans le parc et tout d'un coup ils se sont fait aspirer, quoi. En route pour l'aventure.
Voilà, en route pour l'aventure.
Pourquoi pas, hein. Mais bref, donc tu observes les îles en fait quand tu es dans on parlait de des boucles dans la mer. Donc quand tu es sur le courant X. T'es sur un certain courant, tu vas avoir des îles qui vont être observables, donc tu te mets à l'avant du bateau, t'as ce petit truc-là, tu observes ton île, tu l'observes une première fois, ça te dit « Hey, on a découvert telle île !» Donc déjà, en bas à gauche de l'écran, t'as la petite animation de Mario et Luigi qui est toujours différente. Tu regardes.
Ah, j'ai pas fait gaffe à celle-là, ok.
Ils ont plein de... En fait, quand ils trouvent une île, ils sont contents, donc de temps en temps, t'as Mario qui saute avec les bras en l'air, mais toujours en ayant, tu sais, l'œil dans le...
Dans le canon, oui.
Dans le canon.
Qui fait le gros yeux.
c'est ça qui fait comme ça, qui fait genre ouais, puis de temps en temps il fait genre il baisse le poing en mode ouais et machin, et t'en as genre 4-5 différentes, et puis t'as Luigi derrière qui est content, puis des fois c'est Luigi qui observe et pas Mario, enfin bref, t'en as plein, c'est... Bah, tu sens qu'il y a vraiment que les mecs se sont vraiment amusés là-dessus. Et une fois que tu valides et que tu veux aller sur l'île, bah t'y vas en canon. Normal.
Boum.
C'est pas la première fois, honnêtement.
Oui, c'est pas la première fois, mais là t'as le canon qui t'aspire littéralement, qui balance Mario et Luigi, et en fait Mario atterrit toujours très délicatement.
Propre.
Et
voilà.
Voilà. Propre, c'est le terme. Et Luigi prend toujours la boîte du siècle.
Mais jamais la même.
Jamais la même. Chaque île, il y a une animation différente. Soit il atterrit dans la flotte, soit il atterrit dans le sable, soit il atterrit dans une caisse, soit il atterrit dans un mur. Enfin, c'est...
Il fait de son mieux.
Oui, mais c'est lui qui a les idées de génie.
Oui, c'est lui qui a les idées de génie.
Alors, peut-être qu'il sait pas atterrir.
Mais...
Mais c'est lui qui a les bonnes idées.
Mais il y a de la cervelle, là.
C'est ça. Enfin, vous allez voir la cervelle, c'est compliqué, quand même.
Les petits doublages sont mignons, aussi.
Ouais, je suis plus partagé. En fait,
non, je te parle l'accent italien de Mario et Luigi.
Mais si tu veux, je trouve ça. Alors, c'est un vrai hommage à ce qui se faisait avant, puisque ça a toujours été le cas dans les Mario et Luigi, où à chaque fois ils baragouinent dans une espèce de truc que tu devines être plus ou moins de l'italien ou de l'italo-américain, mais en fait, c'est les autres personnages qui leur répondent.
Ça veut rien dire.
Et ça veut rien dire. Là, de temps en temps, j'ai trouvé ça un peu lourd. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où j'aurais préféré qu'on aille plus vite dans le dialogue.
C'est... Mais.
La bonne idée, c'est qu'il y a, tu peux maintenir la touche B pour accélérer les animations.
Oui.
Donc oui, si jamais ça te pompe, tu peux le faire.
Tu zappes.
Tu peux zapper. Enfin, ça va plus vite.
Attention à la potato.
C'est exact.
Voilà. Non mais c'est ça.
Mario vient de dire qu'il faut monter tout en haut du truc. Et puis. Ah mais c'est la potato. C'est Luigi, idée de génie de Luigi. Il faut mettre un truc rond dans le trou rond. Mais à chaque fois, en plus, ce qui est génial, c'est que l'idée de génie de Luigi, en tant que joueur, tu vois ce qu'il faut faire immédiatement, ça te paraît évident. Mais faut quand même que t'ailles appeler Luigi, qui aille réfléchir et se gratter la tête très très longtemps pour dire mais c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est trop ça qu'il faut faire, quoi.
Et le Mario qui dit ouais, ouais, c'est bien, frérot, c'est bien.
Au moins, il casse le fantôme bien, hein.
Bref. Blablabla, Luigi. Ah oui, c'est la réplique préférée de Mario Bros. Blablabla, Luigi. En fait, ouais, Luigi, c'est le guerrier.
Luigi, I'm your papa. Voilà, twist. Peut-être que vous connaissez la ref.
Non, mais je trouve ça drôle quand même.
Ah, c'est en fait Charles Martinet qui, à l'origine, faisait des Mario en live. Et à un moment donné, il part sur une parodie de Star Wars avec un accent italien.
Oh putain, oui, d'accord.
Excellent.
Bref, pour finir, je sais pas si ça t'a donné cette même impression, Mecton. Moi, ça m'a donné l'impression un peu comme on avait parlé il y a quelques années de Pokémon moderne, dans lequel, en fait, finalement, c'était encore des jeux, entre guillemets, en 2D. C'est-à-dire quand t'avais une...
Oui.
Une barrière, même oui, oui. Si techniquement en termes de 3D t'aurais pu passer à côté.
Là tu sautes pas par-dessus.
Voilà. Ou tu passes pas sur le côté. Même si.
Oui.
C'est-à-dire, techniquement d'un point de vue 3D tu sens que c'est possible. Il pourrait passer Luigi entre la branche et la barrière. Mais il y a un mur invisible parce qu'en fait c'est pas vraiment un jeu 3D, c'est un jeu 2D.
Complètement. Complètement. En fait, si c'est pas
c'est
prévu,
un jeu 2.5D.
Tu passes pas
quoi.
Par là. Oui.
En fait, on dirait presque un jeu GBA porté sur Switch. Moi, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné.
C'est un peu l'impression qu'on peut donner à peu près tous les Mario et Luigi.
Oui, mais au sens... c'est au vraiment sens,
mais c'est
2D
c'est
dans
la
le
3D.
Gameplay, quoi.
Je suis ok, si oui. Tu retires la partie technique, animation, tout ça, t'as quelque chose de très très simple et qui pourrait complètement tourner classiquement en 2D, quoi.
Voilà, tu pourrais faire des animations 2D, t'as pas besoin de l'Unreal Engine.
Oui, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que même les cartes, tu vois, t'as pas beaucoup de trucs qui se chevauchent, enfin, t'as rien de,
oui.
De fou d'un point de vue 3D. C'est pas comme un jeu d'action 3D un peu précis, tu vois, ça reste quand même.
Ça reste conçu comme un jeu 2D.
C'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire, ça reste conçu comme un jeu 2D.
Comme par exemple A Link Between Worlds, qui a beau être en 3D, il est conçu comme A Link to the Past.
Exactement, bah comme finalement le portage de Link's Awakening, hein, qui était...
Oui aussi.
Pas du tout con... Enfin, tu vois, le jeu était pensé en 2D, puisque c'est le jeu d'origine était en 2D, et quand il était porté en 3D, bah en fait, t'as de la 3D certes, mais le gameplay est toujours 2D, contrairement à Echoes of Wisdom, où le jeu est un peu plus pensé pour... Faire attention à la hauteur des choses et à la 3D, tout ça. Là, vraiment, t'as pas grand-chose quoi qui fait penser à ça. Je pourrais très facilement faire un remake de ce Mario & Luigi Brothership et te le mettre sur une GBA. Ça te choquerait pas?
Non.
Non, j'ai pas trop vu de verticalité, de choses comme ça, donc... Ouais.
Alors, il y a des donjons que... qui stackent un petit peu, mais c'est assez limité quand même.
Je crois que le seul jeu où tu devrais modifier pour le seul jeu Mario & Luigi où tu devrais modifier pour que ça reste sur une GBA, ce serait Dream Team Bros, parce qu'il faisait un truc sur la 3D, parce que 3DS forcément.
Oui, mais t'as Paper Jam Bros aussi où tu sens que on te prend au mot mental, t'as un an. Oui, bah voilà, on va le porter.
Oui, un peu moins.
On va le faire, franchement. Easy.
Bref, il va le couper peut-être... au montage.
Peut-être. Bref, c'est peut-être le seul truc... Enfin, je trouve pas ça forcément dommage, mais c'est vrai que ça fait toujours un petit peu bizarre de se dire que finalement on a un jeu en 3D qui est réellement en 2D. Ça, je pensais au Pokémon moderne, mais c'est vrai que...
Oui, ça reste un jeu qui est... qui garde une... un carcan de conception assez vieillot par rapport à ce qui se fait à présent.
Alors après, je sais pas pour les RPG s'il y a des choses plus modernes qui se font de ce point de vue-là, que ce soit niveau exploration ou combat.
Xeno. Bah.
Oui, voilà, mais... Même Xenoblade... Oui, remarque, non, si Xenoblade, t'es vraiment dans un truc où, oui, ça pourrait pas fonctionner autrement, quoi.
Ah, c'est très très vertical. Mais on en parlera... peut-être avec Antix prochainement, mais voilà, les remakes HD, 2D de RPG, pas du jeu 3D, gameplay 2D.
C'est ça, on est exactement là-dedans. Bref, donc, pour conclure, qu'est-ce que ce Mario & Luigi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Enfin, qu'est-ce que t'en as pensé, Mecton, puisque jusqu'à présent...
Alors, qu'est-ce que j'en pense? Là, j'ai fait une petite pause arrivée à la deuxième île, de peur, comme d'habitude, de m'écœurer, tu vois, en le bouffant. Je pense que c'est sympa. Et c'est un jeu à picorer. J'ai en tête que, à mon avis, si on enchaîne 3 îles d'affilée, c'est un coup à saturer, quoi. Ceci dit, ça reste très sympa. Enfin, là, en déplacement, me faire ma petite île le soir, c'était vraiment plaisant. Bon moment, quoi.
J'ai l'impression que le format est aussi, effectivement, comme tu disais, assez prévu pour picorer pour un jeu portable, finalement. C'est-à-dire que comme chaque île est un mini-donjon, le fait de se dire, bah tiens, je démarre cette île, j'en ai pour entre 30 minutes et une heure.
Ouais.
Voilà. Une demi-heure, une heure. Pouf, je reviens à l'île centrale, j'ai raccordé l'île au navisme. Et puis, bah, j'avance sur l'île suivante et éventuellement, il y a les donjons, les fameux 4 phares qui étaient là à l'origine et qui en fait ont tous été saisis par des méchants et donc il faut aller reconquérir. Ces 4 phares, c'est peut-être le truc un peu plus long, puisque là, faut plus prévoir une bonne heure et demie, je dirais, pour les parcourir.
Avec le boss à la fin. Ouais. Voilà.
Mais j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Ça a peut-être aussi été conçu dans cette optique-là, de dire, de toute façon, ça va être un jeu portable avec des sessions de jeu relativement courtes.
Je pense. Hein. Je pense, et du coup, le regret que j'ai, c'est cette sur... Enfin, c'est pas une surabondance non plus. Il y en a pas une tétrachier, mais d'avoir bourré des petites quêtes annexes là-dedans, pas spécialement intéressantes, juste pour diluer la sauce, ou t'encourager à revenir en arrière pour récupérer des collectibles bizarres, c'était peut-être pas nécessaire.
Bah, le truc, c'est, est-ce que le jeu se serait pas fait bâcher parce qu'il était un peu vide, en fait? Le problème, il est... Quand je vois un truc comme ça, je me dis toujours, ça ressemble au développeur qui a pas envie de prendre un taquet, et donc va faire du remplissage parce que la mécanique qu'il avait pensé au départ, l'histoire de changer de courant en temps réel, c'est bien, c'est pas idiot, mais en fait, bah, malheureusement, ça fait des temps morts, quoi. Donc...
Certainement.
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très... Enfin, ça fait un peu bizarre, on va dire ça comme ça. Maintenant, Moi, je dirais que rien que pour l'aspect graphique, ça vaut le coup d'aller jeter un œil, parce que c'est vrai que je ne sais pas encore si l'écriture du jeu est très très bonne. Je sais que je me suis bien marré sur certains points, notamment il y a des trades françaises bien cassées, comme on a l'habitude dans la team trad, on vous fait des gros bisous.
Oui.
Donc il y a vraiment des trucs très très bien faits et très rigolos. Maintenant, est-ce que sur la durée, au niveau de l'écriture, ça va continuer à être drôle et ça va continuer à enchaîner les situations un peu ridicules et un peu rigolotes comme on a l'habitude dans les Mario Luigi, ou est-ce qu'au contraire ça va rester à ce niveau-là? Bah, je ne saurais pas vous le dire pour l'instant. J'espère que oui, parce que
j'en suis, j'ai l'impression. Ah mais complètement. Et là où j'en suis rendu, donc toi a priori t'es légèrement plus loin que moi, et certains personnages secondaires qui commencent à être développés un peu. Soit ça va être très drôle, soit ça va être du twist tellement fumé que ça sera drôle.
Ouais, il y a moyen. Je pense que de toute façon, il y a moyen qu'on soit pas déçu. Bref, donc Mario Luigi, l'épopée fraternelle, c'est dispo. Si vous aimez bien Mario Luigi, je pense qu'il faut vous laisser tenter. Renard, je sais que tu vas l'avoir sous ton sapin.
Oui.
Et ça, j'espère que ça te fait plaisir. Voilà, donc si vous êtes fan, si vous ne connaissez pas du tout la série, ça peut être un bon jeu pour commencer. Parce qu'en vrai, c'est pas vraiment besoin d'avoir fait les jeux précédents, ça tout s'explique très bien, tout se fait très bien.
Bah, comme avec tous les jeux, honnêtement.
Oui. C'est peut-être plus accessible au sens où, je sais pas si Mario Luigi, il me semble qu'il était sur le GBA Online.
Oui,
il y est.
Donc voilà, à la limite ça peut s'essayer là-dessus si ça vous plaît, la version Switch pourquoi pas. Hein. Et je pense qu'effectivement ce que tu disais en début d'émission, c'est peut-être plus adapté pour les enfants, c'est-à-dire que le fait que on t'introduise les mécanismes bien lentement, qu'on s'assure que t'es bien compris et tout ça.
On te les répète, voilà.
On te les répète pas mal, on te remonte pas mal les choses. Je me dis que ça aussi c'est peut-être ça peut être un défaut pour les vieux briscards de la série, mais c'est peut-être une qualité pour les petits nouveaux.
Oui. Parce qu'on connaît, même si, tu vois, je nuance déjà mon propos, pour les vieux briscards, t'as les petits tooltips, là, du cochon tirelire sur les petits écrans de chargement. Il y en a un qui m'a tué, c'est, si tu ne sais pas quoi faire, ouvre ta carte et va vers le point rouge. C'est bien, les points rouges.
Il y en a deux, trois comme ça, ouais, les petits conseils du cochon, ils sont pas mal. Qui n'est pas un cochon.
C'est très bien un cochon, ni une tirelire, ouais.
Voilà. D'ailleurs, ça, c'est pas son nez, c'est ses yeux. Tu vois, c'est ce genre de dialogue qui est quand même un peu surréaliste, qui effectivement marche plutôt bien. Bref. Eh bien, je pense qu'on va se quitter là pour cette émission. Je vous remercie d'avoir été présent, surtout Mecton, qui a dû se lever tôt. Très, très, très tôt. Pour pouvoir être présent.
Pour parler bosser.
Donc, on va vous laisser de toute façon. Merci Renard pour son expertise dans la série Mario & Luigi. On rappelle notre expert maison de la série. Et merci Zergy. Parce que, bah voilà, il était là.
C'est notre petite bonne ratette.
C'est notre mascotte.
Merci le chat.
Merci le chat, merci tout le monde. Voilà, merci le monde entier. Je pense que le monde entier nous écoute et qu'il faut le remercier. Bref,
au dictionnaire de l'Académie française qui malheureusement nous a pondu une définition qui... Pauvre mecton.
Quel gros bâtard. Il y a été. Putain. Il y a été. Ah là là. Bref, on se retrouve dans 2 semaines. Ce ne sera pas, je crois, la dernière émission. Je vais me permettre de vérifier ça. Non, c'est le 4 décembre. Ce ne sera pas la dernière émission. La dernière émission sera probablement le 18 décembre.
Oh.
Ah, ça va faire tard pour une dernière émission. Donc peut-être que ce sera le 4, je ne sais pas exactement. Bref, je ne sais pas encore quel sera le sujet. J'ai très très envie de faire cette fameuse émission Boomer Shooter dont on parle depuis un petit moment. Donc voilà. Surtout que je vais très probablement en recevoir un autre.
En plus, les Turok sont maintenant sur le online.
Est-ce que c'est un Boomer Shooter? Un petit peu. On peut discuter. En tout cas, voilà, on verra ça. Quoi qu'il arrive, on vous retrouve dans 2 semaines. On vous fait de gros bisous. Et on vous dit à la prochaine fois. Ciao tout le monde.
Bisous.
Bye.